Laudetur Jesus Christus.
Attentat kamikaze de l'organisation de l'État islamique hier dans un marché de Bagdad. Au moins 36 personnes ont été tuées, parmi elles des femmes et des enfants. Paris ouvre une enquête sur l'espionnage de journalistes via le logiciel Pegasus. Nous l'entendrons, le volet français de l'affaire n'est qu'une petite partie d'un vaste système planétaire. Le procès de l'ancien président sud-africain reporté, tandis qu'un calme précaire revient après plusieurs jours de violence. Quelle est la situation pour les jeunes d'Afrique du Sud? Analyse à suivre. Et puis enfin, le milliardaire créateur d'Amazon s'envole d'ici quelques heures dans l'espace. Avec ce voyage de quelques minutes, Jeff Bezos espère, nous l'entendrons, lancer le tourisme spatial.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Une nouvelle fois, la capitale irakienne visée par un attentat revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Un attentat kamikaze dans un marché populaire du quartier chiite de Sadar City. Au moins 36 personnes sont mortes, une trentaine sont blessées. Le marché était bondé. De nombreuses personnes se pressaient pour faire leur dernière course avant la fête de l'Aïd. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
Parmi les victimes, près de la moitié sont des femmes et des enfants. Des gens pauvres venus sous une chaleur de plomb en pleine résurgence de la Covid-19 faire leur course pour célébrer la fête du sacrifice qui a commencé ce mardi. Un carnage dans ce quartier emblématique, bastion des partisans du très influent chef religieux chiite, Moqtada al-Sadr. Opposé à la présence des troupes américaines en Irak, distant de Téhéran, le nationaliste soutenu par plusieurs millions de fidèles adhérés au combat a déclaré boycotter les élections législatives d'octobre prochain après avoir dissolu cette semaine son parti Sayyirun, grand vainqueur des élections de 2018. La raison est l'incapacité des autorités à endiguer la corruption responsable de nombreuses catastrophes, notamment sanitaires en Irak. Cet attentat vise incontestablement à semer le chaos à l'approche des législatives. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
L'Afghanistan également touché par des violences, tandis que débute la grande fête musulmane de l'Aïd. Plusieurs roquettes ont explosé ce matin vers le palais présidentiel à Kaboul. L'attaque n'a pas encore été revendiquée et n'a fait a priori aucune victime. À travers toute la Belgique, une minute de silence vient d'être respectée en mémoire des victimes des inondations. Selon des chiffres encore provisoires, 31 personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes. Chez le voisin allemand, le bilan est encore plus lourd. 165 personnes sont mortes. La chancelière Angela Merkel se rend aujourd'hui dans un village sinistré de Rhénanie du Nord, Westphalie. Dimanche, le pape François avait exprimé sa solidarité aux habitants de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas touchés par les pluies diluviennes. Ces mots sont à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Le scandale Pegasus, du nom de ce logiciel d'espionnage israélien, le parquet de Paris a ouvert une enquête sur l'espionnage de journalistes français par l'État marocain qui le conteste. 10 infractions ont été relevées. Le site d'information français Mediapart avait déposé plainte. Mais ce volet français, Xavier Sartre, n'est finalement qu'une petite partie d'un vaste système planétaire.
En effet, Marine, ce logiciel espion introduit dans les téléphones portables et permettant d'avoir accès à toutes les données qu'il renferme et même d'écouter les conversations. Ce logiciel espion aurait permis, selon l'enquête menée par Amnesty International et Forbidden Stories, de surveiller 180 journalistes, dont ceux de Mediapart donc, en France, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits de l'homme et 65 chefs d'entreprise. Ces révélations ont soulevé depuis hier une vague d'indignation de la part d'ONG, de médias, de l'Union Européenne et de gouvernements, dénonçant notamment les atteintes à la liberté de la presse. Amnesty International a précisé qu'il n'y avait pas que des États dits voyous qui avaient recours à cette technologie, mais qu'il y avait en tout une vingtaine d'États, parmi eux le Maroc, la Hongrie qui ont démenti, mais aussi l'Inde ou le Mexique, où l'actuel chef de l'État, Andrés Manuel López Obrador, a été placé sur écoute quand il était dans l'opposition avant son élection. Du côté de NSO, l'entreprise israélienne qui commercialise Pegasus, on dément toujours toute mauvaise utilisation de son produit, les accusations sont fausses, bourrées de suppositions erronées et de théories non corroborées. Peut-être que l'enquête ouverte ce matin par la justice française permettra d'y voir plus clair, au moins pour les faits dénoncés en France.
Merci Xavier Sartre. Des accusations montées de toutes pièces. Pékin fustige les États-Unis et leurs alliés qui reprochent à la Chine d'avoir piraté le géant de l'informatique Microsoft en mars dernier. Hier, en effet, plusieurs pays ont accusé Pékin d'activités numériques malveillantes et d'avoir un comportement, je cite, irresponsable dans le cyberespace. C'est la première fois que les États-Unis et leurs alliés lancent des accusations si fortes contre la Chine. Aucune sanction n'est toutefois annoncée. Le président de la transition au Mali, victime d'une tentative d'assassinat ce matin à la mosquée pour la fête de l'Aïd, le colonel Assimi Goïta a été visé par des coups de couteau. Il n'a pas été blessé. Une personne a été interpellée. En Afrique du Sud, le procès de l'ancien président Jacob Zuma est reporté au 10 août. Un recours demandé par les avocats de la défense qui estiment qu'à cause des audiences qui se font de façon virtuelle, Jacob Zuma est privé de ses droits constitutionnels. L'incarcération de l'ancien président il y a maintenant 2 semaines pour une autre affaire avait déclenché une vague de manifestations en Afrique du Sud. La situation a dégénéré et 215 personnes sont mortes lors de ces violences. Ces jours-ci, un calme précaire est revenu, mais le quotidien reste compliqué en Afrique du Sud, notamment pour les jeunes. Alors quelles sont leurs aspirations? La réponse de Marianne Séverin, spécialiste de l'Afrique du Sud au sein du laboratoire de recherche Les Afriques dans le Monde de Sciences Po Bordeaux.
Avoir un travail, c'est assez difficile parce que quand on les suit sur les réseaux sociaux, on se demande bien ce qu'ils veulent. Leur dire d'aller à l'école, ils sont peut-être pas suffisamment instruits pour aller le plus loin possible. Ils n'ont pas les qualifications pour avoir un emploi. Donc finalement, le vol, le vandalisme, ça a l'air d'être quelque chose de nettement plus facile. Je pense pas qu'on puisse parler de la jeunesse sud-africaine. On devrait parler de des jeunesses sud-africaines parce qu'il y a plusieurs groupes de jeunes. Suivant si vous appartenez à la majorité de la population noire ou si vous êtes blanc ou métis ou indien et si vous allez à l'université ou non. Et ce ne sont pas ceux des universités qui sont partis voler dans les magasins.
Marianne Séverin, spécialiste de l'Afrique du Sud au sein de Sciences Po Bordeaux. Elle était interrogée par Adélaïde Patrignani et son interview en format un peu plus long est disponible évidemment sur notre site internet. Les médecins de RDC durcissent leur mouvement de grève. Le service minimum sera réduit cette semaine. Les médecins congolais ont débuté la grève le 12 juillet. Ils demandent le versement des salaires à plusieurs centaines de blouses blanches non payées depuis des années et plus de médecins pour le pays. On reste en RDC où ont lieu aujourd'hui les funérailles de l'archevêque émérite de Kinshasa, Monseigneur Laurent Monsengwo, décédé le 11 juillet dernier en France. Une grande foule est attendue. Le président de RDC, Félix Tshisekedi, remettra à l'ancien cardinal une décoration à titre posthume. L'inhumation aura lieu demain à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. 9 jours après le vol inaugural du milliardaire Richard Branson sur son avion-fusée, c'est au tour de son rival Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, de faire ses preuves avec une fusée réutilisable destinée également aux touristes qui veulent goûter brièvement aux joies du vol spatial. Le milliardaire devrait décoller d'ici 2 petites heures. Les précisions de Frédéric Castel.
Après plus de 15 ans d'efforts, deux milliardaires, Richard Branson, fondateur de Virgin Atlantic, et Jeff Bezos, créateur d'Amazon, ont mis au point avec leur propre fortune deux systèmes très différents pour un simple voyage touristique de quelques minutes dans l'espace, le temps d'apprécier la pesanteur et la vue de la courbure terrestre sur fond de ciel noir. Le 11 juillet dernier, en pionnier, Richard Branson a prouvé lui-même la fiabilité de son transport spatial avec décollage et atterrissage sur une piste d'aéroport. Aujourd'hui au Texas, Jeff Bezos va être propulsé lui aussi dans l'espace à bord de sa fusée réutilisable New Shepard avant de redescendre dans sa confortable capsule freinée par 3 parachutes. Il sera accompagné dans ce périple de 11 minutes par son frère Mark et 2 passagers qui deviendront le plus jeune astronaute, un Hollandais de 18 ans, et la plus âgée des astronautes, une pilote chevronnée de 82 ans. Les deux milliardaires espèrent ainsi lancer le tourisme spatial et progressivement faire baisser les prix pour démocratiser l'expérience du vol suborbital qui est 15 à 20 fois moins cher que le vol orbital commercial vers la station spatiale internationale. Frédéric Castel pour Radio Vatican.
Moscou se félicite du succès de son nouveau système de défense aérienne, le S-500. Selon la Russie, ces missiles anti-aériens sont capables de détruire un missile en un vol et ont une portée de 600 km. Il n'existe pas d'équivalent, se réjouissait le ministère russe de la Défense. Le prochain retour de l'information demain matin à 8h30. Très bel après-midi.